À Solange Clésinger, Nohant, 25 avril 1852. Je vois, ma grosse, que tu es dans un accès de spleen. Bah, ça passera vite, comme tout ce qui te passe par la tête. Il me semble que, puisque tu as eu une première victoire, assez inespérée quant à moi, je l'avoue. Puisque dans quelques jours, tu vas ravoir ta fille et l'amener ici, où tu resteras si tu veux jusqu'à de nouvelles nécessités de ton procès, il n'y a pas à se désespérer pour quelques jours passer dans une chambre triste. Car je vois que c'est là le grand malheur du moment. Celui-là n'est pas mortel. J'ai beaucoup vécu, beaucoup travaillé seul, entre quatre murs sales, dans les plus belles années de ma jeunesse, comme tu dis. Et ce n'est pas ce que je regrette d'avoir connu et accepté. L'isolement dont tu te plains, c'est autre chose. Il est inévitable dans le moment où tu es. Il est la conséquence du parti que tu as pris. Ce mari, insupportable de caractère, c'est possible, n'était peut-être pas digne de tant d'aversion et d'une si fougueuse rupture. Je crois qu'on aurait pu se séparer autrement, avec plus de dignité, de patience et de prudence. Tu l'as voulu, c'est fait. Je n'y reviens pas pour te dire qu'il ne fallait pas le faire, puisque la chose est accomplie. Mais je trouve que tu n'as pas bonne grâce à te plaindre des résultats immédiats d'une résolution que tu as prise seule, et malgré ses parents, amis et enfants, dont tu sens l'absence aujourd'hui. L'enfant aurait dû te faire patienter. Les amis l'auraient voulu. Les parents, car c'est moi dont tu parles, demandaient instamment que le moment fût mieux choisi, les motifs mieux prouvés, la manière plus douce et plus généreuse. Tu veux avaler des barres de fer et tu t'étonnes qu'elles te restent en travers de l'estomac. Moi, je trouve que tu es bien heureuse de les digérer sans en être plus malade. Je ne vois pas que tu aies tant à te plaindre de tout le monde et que les amis que tu as été à même de te faire en vivant loin de moi volontairement dans le monde te soient restés plus fidèles que ceux qui te venaient de moi. Que Clotilde, la seule parente qui me reste, eut beaucoup à se louer de tes faveurs. Et pourtant, elle t'a ouvert un asile dans des circonstances où tout le monde eut reculé devant des scènes fâcheuses, dont le hasard seul l'a préservée de la part de ton mari. Je ne vois pas que Lambert, que tu voulais jadis faire battre et tuer par ce même mari, ne t'ait pas montré, dans sa petite sphère d'assistance, beaucoup d'intérêt et de dévouement. Il n'est pas un de mes vieux amis qui n'eût été prêt à te pardonner tes aberrations envers moi et à t'accueillir comme par le passé, si toi-même n'eusses dédaigné et repoussé l'idée de leur devoir quelque chose. Le nombre n'en est pas grand, il est vrai. Et ce ne sont pas des gens d'importance et de haute volée. Cela, ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas née princesse comme toi et j'ai établi mes relations suivant mes goûts simples et mes instincts de retraite et de tranquillité. Alors, le grand malheur de ta position, c'est d'être ma fille. Mais je n'y peux rien changer, et il faut bien que tu en prennes ton parti une fois pour toutes. Quant aux autres amis que tu as pu faire depuis ton mariage et notre séparation, je ne peux pas croire que tous soient détestables, et qu'il y ait de leur faute dans votre rupture. Bourdet a été sévère pour toi. Mais s'il avait quelque raison pour l'être, je ne vois pas que j'y sois pour quelque chose. Et je ne suis pas certaine non plus qu'il n'eût pas été facile de le conserver pour appui. Sa famille t'aimait tendrement. J'ai vu sa femme te pleurer, et sa belle-mère parler de toi avec une grande sollicitude. Le comte d'Orsay, en dépit de tout le mécontentement que lui causait le détail de ta conduite, et rester paternel pour toi au milieu de sarcasmes que je souffre de te voir mériter souvent. Sa sœur a été aimable et bien disposée pour toi. Tu la détestes. Tu as vu beaucoup de personnes dans une position brillante, telle que tu les cherches, de préférence. Madame de Girardin, et d'autres encore. Pourquoi ne trouves-tu pas appui et sympathie dans le monde où tu t'es lancé et auquel moi, je suis forcément étrangère? Le monde entier est-il détestable? Et n'y a-t-il que toi de parfaite? Es-tu une victime de l'injustice générale ou de ton propre caractère qui est dédaigneux, changeant et qui exige tout des autres sans se croire obligé à rien envers les autres? Pense-y, et si c'est là le mal, comme il est en toi-même, personne autre que toi n'y peut apporter remède dans l'avenir. Tu auras beau te plaindre à moi de ton ennui et de ton abandon. Je ne pourrai forcer personne à t'aimer si tu n'es pas aimable. Si ton frère n'est pas ton meilleur ami, ton compagnon assidu, comme il l'aurait fallu pour notre bonheur à tous les trois, est-ce parce qu'il est selon toi un monstre d'égoïsme? Je ne le pense pas, moi qui vis avec lui depuis bientôt 30 ans, sans un nuage sérieux entre nous. Pas plus que toi, il n'est sans défaut. Mais je l'ai vu verser bien des larmes sur tes injustices. Donc, il a quelque chose pour toi dans le ventre, tout en te rudoyant. Et toi, tu lui as dit bien des fois que tu le haïssais. C'était dans la colère. Mais dans le calme, tu n'as jamais dit ni à lui, ni à moi, ni à personne que tu l'aimais. Et il est très facile de voir que tu ne l'as jamais aimé. Il faut que tout ce qui t'aime se résigne à être à peine toléré. Tu n'aimes pas. Tu ne sens pas ton vrai malheur, mais il se traduit par l'ennui de l'âme et par l'isolement. Et tu te plains de ceux qui t'abandonnent sans comprendre que tu as repoussé et blessé tout le monde. Il te faudrait, pour te consoler, de l'argent, beaucoup d'argent. Dans le luxe, dans la paresse, dans l'étourdissement, tu oublierais le vide de ton cœur. Mais pour te donner ce qu'il faudrait, il me faudrait moi travailler le double, c'est-à-dire mourir dans 6 mois, car le travail que je fais excède déjà mes forces. Et si je mourais dans 6 mois, tu ne serais pas longtemps riche, donc cela ne servirait à rien, car mon héritage ne vous fera pas riche du tout, ton frère et toi. D'ailleurs, si je pouvais travailler le double et durer quelques années encore, est-il bien prouvé que mon devoir envers toi fut de me créer cette vie de galérien, de me faire cheval de pressoir pour te procurer du luxe et du plaisir? Non, cela ne m'est pas démontré. Et tu me permettras de croire que ce n'est pas seulement la crainte de déranger mes petites aises, comme tu le dis si bien, qui m'empêche de consommer ce suicide stupide et monstrueux à envisager. Ne fût-ce qu'aux yeux de Maurice, c'est un sentiment de devoir plus sérieux et plus vrai. Car ayant échoué dans celui de te rendre heureuse et raisonnable, celui de t'amuser devient tout à fait contraire à mes autres devoirs en ce monde. Donc, résume ma situation financière et la tienne. Nous avons, pour 3, 7000 francs de rente. Le reste sort de mon cerveau, de mes veilles, de mon sang brûlé et de mes nerfs tendus et malades. Je te donnerai le plus que je pourrai. La maison sera tienne tant que tu n'y mettras pas le trouble par tes folies ou le désespoir par tes méchancetés. Je garderai j'élèverai ta fille tant que tu voudras. Mais je ne m'affecterai pas des plaintes inutiles sur la gêne et les privations qu'il te fera subir à Paris. Je ne m'en fâcherai pas, tout en les comprenant fort bien. Mais j'ai pris mon parti sur des choses sans remède. On ne rudoie que tant qu'on espère amender. Je sais très bien qu'à tes yeux, je serai toujours la cause de tes maux. Je ne serai pas assez riche, je ne serai pas assez grande dame, ou je me permettrai trop de charité, je ne priverai pas assez Maurice, l'enfant chéri, pour orner ta vie de chevaux et de toilettes. J'aurai peut-être l'infamie d'aimer et d'estimer Augustine, et de l'avoir chez moi aux vacances. Tous ces torts-là, je les aurai, n'en doute pas. Tu me les reprocheras directement ou indirectement, j'y compte. Tu trouveras toujours quelques confidentes, plus ou moins rosières, pour faire circuler dans un certain monde de cancans, où j'ai des ennemis parce que ma droiture y écrase bien des pécores, que tu es une victime de mon abandon, de ma préférence pour mon fils et pour cette coquine d'Augustine qui a l'impudeur d'être fort pauvre sans se plaindre jamais, de travailler comme un nègre à 50 sous le cachet dans une petite ville de province, de se trouver heureuse avec son mari et son enfant et de me bénir comme si je l'avais faite millionnaire. Que veux-tu ? La vie a ses mauvais côtés. Je les connais. Je les subis. Je laisserai dire, et tu n'en seras ni plus riche, ni mieux entouré. Ouvre donc les yeux. Tu n'es pas idiote. Et tu auras beau enfler ta personnalité, ta conscience te criera toujours que quiconque ne se sacrifie jamais, ne forcera jamais personne à se sacrifier pour lui. L'avenir est à toi. Ce n'est plus un avenir de cavalcade, de beaux appartements, de loisirs, de causeries, d'indolence et de grands airs. C'est la retraite, les soins du ménage, l'éducation et la surveillance assidue de ta fille, le travail, si tu peux. Sinon, la plus stricte économie, la plus austère simplicité dans un intérieur presque pauvre à Paris, tout à fait pauvre et misérable en comparaison de ce que tu as rêvé. Sinon, la vie de campagne chez les parents, mais un peu en tutelle, car tes parents voudront rester maîtres chez eux et ne souffriront pas de cortège auquel on les accuserait de prêter la main et de tenir la bougie. Voilà l'avenir d'une femme qui a été malheureuse dans le mariage, autant par sa faute que par celle d'autrui, qui a voulu rompre violemment et dès les premières souffrances sans s'assurer l'appui et sans écouter le conseil de personne. Mais cet avenir peut tout réparer. Ce peut être celui d'une femme de bien, qui a réfléchi après coup, et qui a fait un grand effort de cœur, de conscience et de courage, pour ramener à elle les affections gaspillées, l'approbation discutée. Dans cette austérité, dans cette simplicité de mœurs et d'habitudes, elle peut sentir son âme s'élargir, son esprit s'élever. Elle peut être artiste. Elle peut créer ou sentir. Ce qui est aussi agréable, aussi fortifiant l'un que l'autre, aussi en dehors des jouissances matérielles, aussi indépendant du monde, de la richesse et des excitations vides qu'elle procure. L'âme purifiée peut et doit arriver aux seules vraies jouissances de la vie. Dans cette situation, un enfant aimable, intelligent et beau comme Nini est un trésor dont on sent le prix et qui vous tient lieu de tout. On a de bons et de solides amis qui ne vous admirent pas pour vos rubans et vos parfums, mais qui vous estiment, vous chérissent et vous protègent pour votre vraie beauté, celle de l'âme et de la conduite. Mais il y a un autre avenir. Et les réflexions de ta lettre sur les femmes de jugements et de cœur qui succombent quelquefois comme des filles sans éducation au plaisir et au vice me font penser que ton mari ne mentait pas toujours quand il prétendait que tu lui avais fait certaines menaces. si ton mari est fou. Tu es diablement folle aussi, ma pauvre fille, en certains moments. Et tu ne sais pas alors ni ce que tu penses, ni ce que tu dis. Tu étais dans un de ces moments-là, en m'écrivant le paradoxe étrange qui est dans ta lettre. Non. Les femmes de cœur et de jugement ne succombent jamais à l'attrait du vice. Car le vice n'a d'attrait et de séduction que pour celles qui sont sans jugement et sans cœur. Voilà la question jugée par elle-même, par ses propres termes où tu la poses. Si tu dis souvent de pareilles stupidités, je ne m'étonne pas que tu aies fait péter la cervelle de Clésinger. Une mère les lit avec pitié, mais un mari ne doit pas les entendre sans fureur ou sans désespoir. Vraiment, tu trouves difficile d'être pauvre, isolé et de ne pas tomber dans le vice? Tu as bien de la peine à te tenir debout parce que tu es depuis 24 heures entre quatre murs et que tu entends rire les femmes et galoper les chevaux au dehors? Quel malheur, comme dit Maurice. Le vrai malheur, c'est d'avoir une cervelle où peut entrer le raisonnement que tu fais. Il me faut du bonheur et du vice. Depuis quand donc le manque de bonheur est-il un prétexte au manque de dignité? Dans quel code de morale ou de religion chinoise ou sauvage as-tu donc lu que l'être humain n'avait pas de choix entre la souffrance et la honte, et qu'il n'y avait aucune consolation à souffrir sans s'abaisser? Existe-t-il sur la terre une créature si précieuse, si différente des autres, si excellente à ses propres yeux qu'elle puisse dire « Mon droit au bonheur est tel que si on ne le satisfait pas, je le satisferai par tous les moyens. » Ne dis donc plus de pareilles bêtises. Je ne veux pas, moi, les prendre au sérieux, comme ton fou de mari, que tu as plus souvent regardé comme un niais que redouté comme un tyran. Je ne donne pas dans ces bourdes-là. Essaye donc d'en avoir un peu du vice et de la prostitution. Je t'en défie bien, moi. Tu ne passeras pas seulement le seuil de ma porte pour aller chercher du luxe dans l'oubli de ta fierté naturelle. Or, le suicide moral est comme le suicide physique. Quand on n'en a pas la moindre envie, il ne faut pas en faire la menace à personne, pas plus à sa mère qu'à son mari. Ce n'est d'ailleurs pas si facile que tu crois de se déshonorer. Il faut être plus extraordinairement belle et spirituelle que tu ne l'es pour être poursuivie ou seulement recherchée par les acheteurs. Ou bien il faut être plus rouée, se faire désirer, feindre la passion ou le libertinage. Toutes sortes de belles choses dont, Dieu merci, tu ne sais pas le premier mot. Les hommes qui ont de l'argent veulent des femmes qui sachent le gagner. Et cette science te soulèverait le cœur d'un tel dégoût que les pourparlers ne seraient pas longs. Abstiens-toi donc à jamais de ces bravades, de ces aspirations et de ces regrets. Tu en parles comme une aveugle des couleurs. Tu seras fière et honnête, malgré toi. Il faut en prendre ton parti et ne pas croire qu'il y ait même grand mérite à cela. Tu as de véritables accès de folie. Prends-y garde. Tâche que je sois seule à le savoir. J'ai vu des jeunes femmes lutter contre les passions de cœur ou d'essence et s'effrayer de leur malheur domestique, dans la crainte de succomber à des entraînements volontaires. Mais je n'en ai jamais vu une seule élevée comme tu l'as été, ayant vécu dans une atmosphère de dignité et de liberté morale, qui se soit alarmée des privations du bien-être et de l'isolement, à cause des dangers que tu signales. Une femme de cœur et de jugement ne sait pas seulement si de tels dangers existent. Elle peut craindre, si forte qu'elle soit, d'être entraînée par l'amour, jamais par la cupidité. Sais-tu que si j'étais juge dans ton procès et que je lusse tes aphorismes d'aujourd'hui, je ne te donnerais certes pas ta fille ? Et pourtant tu me dis de la redemander pour toi. Ma foi, si tu veux que je continue, parle-moi autrement, je t'en prie, autrement je croirai qu'elle est mieux où elle est. Bonsoir, ma fille. Lis cette lettre plutôt trois fois qu'une. Elle te fâchera à la première, mais à la troisième tu diras comme moi, et tu ne recommenceras plus ce mauvais rêve. Je t'embrasse quand même, et tendrement. Ta mère. Je t'ai écrit une longue lettre. Lis-la dans un moment de calme et de raison. Elle résume tout ce que je t'ai dit, tout ce que j'ai à te dire. Je n'y reviendrai pas et t'engage seulement à la garder comme l'invariable réponse que j'aurai à faire à de certaines plaintes. Et puis, prends ton courage à deux mains. Va chercher ta fille et amène-la ici. Évite-moi de te dire des choses qui font toujours mal à dire et à entendre. Évite aussi d'en dire aux autres qui me reviennent toujours et qui ne me feront pas varier. Marche droit. C'est ennuyeux, selon toi. Selon moi, c'est agréable et sain. Efforce-toi de comprendre pourquoi j'en juge ainsi et essaye de trouver le bonheur où il est, dans la conscience. Tu auras beau chercher, tu ne le trouveras pas ailleurs.